Les parts actualités.
Bonjour et bienvenue à l'émission Les Paractualités, édition du 21 décembre 2017. Et au menu aujourd'hui, en manchette, Ottawa réinstaure la pension à vie pour les anciens combattants blessés, les défis du retour au travail après la maladie, élan de générosité pour la mère Teresa de Bellechasse, et aussi l'Office des transports du Canada écope d'une amende de 25 000 $ pour ne pas avoir annoncé des arrêts. En entrevue, je reçois Christina Pelletier, directrice du développement, financement, partenariat et relations publiques de Parrainage civique Montréal, qui nous parlera, entre autres, d'ateliers d'art et de musique. Et je reçois aussi Tommy Bédard, directeur général de la Société de l'autisme de l'Abitibi-Témiscamingue, qui, lui, nous entretiendra à propos d'une belle initiative pour les enfants ayant un trouble du spectre de l'autisme en cette période de Noël. Ottawa réinstaure la pension à vie pour les anciens combattants blessés. Le gouvernement Trudeau veut offrir aux anciens combattants blessés un meilleur soutien financier et de l'aide grâce à un programme de pension à vie réservé aux soldats blessés en uniforme. Le ministre des anciens combattants, Seamus O'Regan, a dévoilé hier le nouveau programme de pension plus de 2 ans après l'élection lors de laquelle les libéraux en avaient fait la promesse. Les modifications au programme actuel sont complexes et représentent la plus importante refonte des mesures d'aide aux anciens combattants handicapés en plus de 10 ans. Ces nouvelles mesures devraient bonifier l'aide financière accordée aux ex-militaires blessés, notamment pour les victimes les plus sérieusement handicapées, rendues inaptes au travail et qui continuent de souffrir de leurs blessures. Toutefois, le programme libéral prévoit de faibles améliorations des conditions offertes aux autres anciens combattants et plusieurs vont devoir continuer de se contenter de ressources moindres que l'ancien programme de pension à vie, aboli en 2006. Le nouveau programme devrait entrer en vigueur en avril 2019. Ce délai est attribué au temps nécessaire à l'adoption de la loi et au dégagement des ressources nécessaires pour financer le programme. Les anciens combattants qui souffrent de handicaps sévères ou permanents pourront aussi obtenir une compensation mensuelle variant entre 500 et 1 500 $. Ces compensations sont toutes exemptes d'impôts. Sur le site du Protecteur du citoyen.qc.ca, santé et services sociaux, de nombreuses enquêtes. Le respect des droits des usagers et usagères du réseau de la santé et des services sociaux est au cœur de la mission du protecteur du citoyen. Pouvant agir à la suite d'une plainte, d'un signalement ou de sa propre initiative, le protecteur du citoyen a procédé à de nombreuses enquêtes dans la dernière année. Comme le prévoit le régime d'examen des plaintes du réseau de la santé et des services sociaux, le protecteur du citoyen est un recours de deuxième niveau après la commission, le commissaire aux plaintes et à la qualité des services de chacun des établissements. Exception toutefois, lorsqu'il reçoit un signalement d'une personne ayant été témoin d'une situation qui l'inquiète ou qui semble attester de failles ou d'injustice dans les services publics, par exemple, un geste de maltraitance ou un service inadéquat de la part du personnel d'un établissement, le protecteur du citoyen peut agir directement. À la suite d'un tel signalement, il peut procéder à une enquête qui mènera à la production d'un rapport d'intervention. Lorsque le signalement est fondé, le protecteur du citoyen formule des recommandations à l'établissement visé. Les rapports d'intervention du protecteur du citoyen contribuent ainsi à l'amélioration des services et des soins offerts à la population. Le protecteur du citoyen a procédé à de nombreuses enquêtes dans la dernière année dans plusieurs régions du Québec, notamment sur la qualité des soins et des services offerts dans certains hôpitaux ou dans des résidences privées pour aînés. Et en ce premier jour d'hiver, puisqu'il est arrivé à 11h28 ce matin, en ce 21 décembre, je joins en Abitibi-Témiscamingue, où il y a probablement de la neige, Tommy Bédard, directeur général de la Société de l'autisme. Bonjour, M. Bédard.
Bonjour, oui, effectivement, il y a beaucoup de neige ici.
Oui, c'est tout blanc en Abitibi ou Témiscamingue?
Partout.
Tant mieux, tant mieux. Vous êtes dans l'esprit des fêtes, d'autant plus qu'il y a une belle activité pour une deuxième année. Le Centre commercial Les Promenades du Cuivre de Rouyn-Noranda et la Société de l'autisme de l'Abitibi-Témiscamingue, vous avez fait vivre une belle expérience des fêtes aux enfants atteints de TSA, donc trouble du spectre de l'autisme. Quelle entente avez-vous eue avec le Centre commercial Les Promenades du Cuivre?
Mais en fin de compte, l'entente était quand même très simple, c'est que je proposais à nos membres et à toute personne dont toute personne ayant un enfant autiste d'inscrire le nom de leur enfant sur une liste VIP, une liste prioritaire, qui faisait en sorte que l'enfant n'avait pas besoin de faire la longue file d'attente avant de rencontrer le Père Noël. Donc, cette année, on a eu, je pense, 15 enfants qui se sont inscrits sur cette liste.
Mm-hmm.
Donc, ça a permis à certains enfants et à certains parents de voir leur enfant rencontrer le Père Noël pour la première fois de leur vie.
Ah oui, et comment ça se passe, ces rencontres-là?
En fin de compte, c'est le même Père Noël qu'on a depuis 2 ans, en fin de compte, c'est le vrai Père Noël.
Ben oui, c'est
sûr. Nous avons le vrai, étant donné qu'en Abitibi, on est tellement dans le nord, donc on est vraiment tout près de lui, c'est facile.
Ouais.
Donc, on a vraiment formé le Père Noël sur les ce qu'il faut faire, ne pas faire. Et
comment
tout.
Vous l'avez formé? Quel genre de conseils vous lui avez donné?
Mais en fin de compte, on lui a fourni de la documentation qui nous provient de la Fédération québécoise de l'autisme. C'est des petits feuillets de sensibilisation que le Père Noël et ses lutins ont pris connaissance.
Mm-hmm.
Puis, à partir de là, ça leur a vraiment permis de comprendre les particularités de chaque enfant autiste, parce qu'on s'entend qu'il n'y en a aucun qui est pareil.
Alors, le Père Noël reçoit les enfants atteints de ce trouble neurologique depuis quand et jusqu'à quand?
Mais en fin de compte, c'est passé, c'était en début décembre. On offre 2 jours, en fin de compte, complets.
Ah oui?
Donc, selon les horaires. À chaque année, on change la formule. L'année précédente, c'était seulement qu'une journée. Cette année, on y est allé avec 2 jours. L'année prochaine, on va peut-être étirer un peu plus long parce qu'on voit que le besoin y est. Les gens ont souvent sont un peu timides d'utiliser ce genre de service en se disant « Mon Dieu, on passe avant tout le monde, on se sent un peu gêné et tout, tout. » Mais je sens que les gens comprennent très bien la problématique. On essaie de sensibiliser la population, donc eux comprennent quand même assez facilement que ces petits-enfants ne sont pas capables de passer, d'attendre 15, 20 minutes, une demi-heure dans un centre commercial avec la musique, les enfants excités. Et aussi, on permet à la fratrie, les frères, les sœurs qui veulent voir le Père Noël, d'accéder à cette liste. Car je trouverais injuste de faire passer un petit enfant à TSA en prioritairement et le faire attendre ensuite que son frère et sa sœur passent.
Ah oui, ça ne réglerait pas le problème, vraiment.
Non, pas
Il y aurait
vraiment.
Des gens impatients au bout du compte. Et votre enfant, Gabriel, a vécu cette expérience-là. Comment ça s'est passé?
Ah, pour lui, c'est quand même assez simple. J'ai quand même la chance, et je m'amuse de dire que j'ai un bon candidat.
Il a quel âge, Gabriel?
7 ans.
Ah, l'âge de raison.
Oui. Donc, pour lui, oui, c'est sûr que les files d'attente, c'est pas nécessairement agréable. La musique, il aime pas vraiment ça. Il
adore
Noël, mais la musique qu'on entend dans les centres commerciaux, c'est pas son endroit préféré.
Bon, comme bien des gens d'ailleurs.
Oui, donc lui, c'est vraiment, ça lui fait pratiquement mal.
Oh!
Ouais, pour certains, certains sons peuvent leur faire mal. Oui,
le faire souffrir.
Exactement. Donc, pour lui, c'était quand même très, très, très rapide. On est arrivé en 5 minutes, on avait rencontré le Père Noël. Il était heureux, il a présenté ses choix au Père Noël. On est revenu à la maison, tout le monde était heureux.
Bon, alors, quels sont les choix de Gabriel? Est-ce que le Père Noël vous l'a dit?
Ah, mon Dieu, oui. Et mon fils même le sait. Ce sont des Mexos. C'est des jouets de Lego.
Ah, oui!
Qui n'existent plus, malheureusement.
Oh. Donc,
mon fils les a trouvés sur Internet, mais bon, ça, c'est notre petit travail à nous maintenant.
Bien, bonne chance dans vos recherches. Est-ce que vous avez d'autres témoignages à partager avec nous?
Oui, mais en fin de compte, comme je vous disais, il y a une maman. En fin de compte, c'est pas cette année, c'est l'année précédente. C'était la première fois que première fois que ses trois enfants rencontraient le Père Noël, acceptaient de s'approcher de ce monsieur à barbe blanche et une voix très forte.
Mm-hmm.
Donc, c'était la première fois, on voyait vraiment la joie dans les yeux de cette maman et la reconnaissance du centre d'achat, parce qu'en fin de compte, c'est le centre commercial qui nous a approchés
oui.
pour nous présenter ceci.
Ah, oui.
Et on a embarqué dans le projet de façon...
Complètement.
Exactement.
Oui.
Chercher les mots.
Et est-ce que le Père Noël, lui, a bien fait son travail? Est-ce qu'il a été particulièrement touché par ces rencontres-là qu'il a eues avec les enfants atteints d'autisme?
On a un merveilleux Père Noël qui est extrêmement
ben oui,
sensible
c'est le vrai.
À la cause. Puis on a le vrai, comme je vous ai
en
dit.
En plus.
Mais oui, très sensible. Puis c'est, pour lui, c'est d'une simplicité. On dirait qu'il n'y a aucun effort à faire.
Un naturel.
Oui, tout à fait. Il m'a dit que pour lui, c'était tout à fait normal. Il ne voyait aucune différence. Et puis, comprenant qu'il y a certains trucs qu'il ne peut faire pour certains enfants, s'il voit qu'il touche l'enfant, l'enfant n'aime pas ça, il n'insistera pas.
Il n'aura
pas l'enfant de s'asseoir sur lui. Il va parler doucement. Donc, comme je dis, c'est une belle expérience pour lui, une belle expérience pour tout le monde. Et on va sans doute reproduire encore l'année prochaine.
Bon.
Puis on veut vraiment essayer de voir d'autres centres commerciaux de la région.
Oui, bonne idée. Et ça fait partie de vos projets pour 2018.
Les projets, on en a toujours trop.
Ben...
Il manque de temps et d'argent, comme toujours.
Ah oui, mais c'est mieux d'en avoir trop que pas assez.
Exactement.
Tony Bédard, directeur général de la Société de l'autisme de l'Abitibi-Témiscamingue, bonne chance dans vos recherches de Lego, puis je vous souhaite un très agréable temps des fêtes.
Merci à vous aussi.
Au revoir, merci.
Au revoir.
Dans la tribune.ca, les défis du retour au travail après la maladie. Travailler sans soutien ou quitter la population active, voilà le dilemme auquel sont confrontés de trop nombreux Canadiens. En effet, une étude démontre que la moitié des Canadiens de plus de 20 ans sont atteints d'une maladie chronique, arthrite, Parkinson, diabète, fibromyalgie, épilepsie ou maladie de Crohn, entre autres. Chaque année, ces maladies chroniques causent des pertes de productivité qui grèvent l'économie canadienne d'environ 122 milliards de dollars, soit environ 6 % du produit intérieur brut du pays, selon les données fournies par un récent rapport fourni par le Forum des politiques publiques. Nathalie Goudreau fait partie de ces chercheurs qui constatent trop souvent que le retour au travail n'est pas abordé quand il est question de soulager un problème de santé. Cette physiothérapeute de formation, chercheuse au Centre de recherche du CHUS et professeure à l'Université de Sherbrooke, s'intéresse aux patients qui subissent une arthroplastie, c'est-à-dire un remplacement d'une hanche ravagée par l'arthrose. Comment se passe le retour au travail après une arthroplastie? Premièrement, on se rend compte que la question n'est souvent jamais abordée dans la trajectoire de soins, explique celle qui travaille en collaboration avec ses collègues du service d'orthopédie du CHUS et avec la professeure Marie-France Coutu. Avant, on mettait des prothèses aux gens plus tard dans leur vie parce que la durée de vie limitée des prothèses était un obstacle. Maintenant, comme la durée de vie des prothèses s'est allongée, on remplace des hanches ou des genoux plus tôt dans la vie parce qu'on se rend compte que les gens, plus ils sont jeunes, mieux ils récupèrent et plus ils seront fonctionnels longtemps, soutient Mme Gaudreau. Élan de générosité pour la mère Teresa de Bellechasse, c'est dans le Journal de Québec, les 27 enfants de Louise Brissette, que l'on surnomme la mère Teresa de Bellechasse, recevront une livraison de copieux repas juste à temps pour Noël grâce à l'élan de générosité d'une entreprise de Québec touchée par le reportage du journal. Le directeur de Saveur Campus, responsable du service alimentaire sur le campus de l'Université Laval, raconte avoir été très touché par le dévouement de Mme Brissette raconté dans nos pages dimanche. La dame âgée de 71 ans prend soin de ses 27 enfants handicapés physiques et intellectuels, sévères dans plusieurs cas, âgés de 14 à 40 ans. Personne ne peut demeurer insensible face à cette bonté humaine, mentionne Louis-Marc Saint-Pierre, qui, avec son équipe de cuisiniers, concoctera plus de 100 repas pour nourrir la grande famille de Mme Brissette pendant une journée. Un projet qui n'est pas une mince tâche de travail pour son équipe de quelques 15 employés, qui devra mettre les bouchées doubles d'ici Noël. Tous les repas seront livrés congelés pour aider la mère de famille. La famille Brissette pourra ainsi savourer certains plats du menu du restaurant Le Cercle du pavillon Alphonse Desjardins, sur lequel on trouve notamment de la joue de bœuf braisée, des cuisses de canard, des ravioles aux champignons, en plus d'une bûche chocolatée. M. Saint-Pierre espère que son geste incitera d'autres entreprises à faire de même. Ça ne doit pas être perçu comme un geste de miséricorde. Nous le faisons de bon cœur, a-t-il tenu à préciser. Très surprise et reconnaissante de cet élan de générosité, Mme Brissette s'est dite touchée de ce don à quelques jours des festivités de Noël. Je parle maintenant avec Christina Pelletier, directrice du développement financement, partenariat et relations publiques de Parrainage civique Montréal. Bonjour, Madame Pelletier.
Bonjour.
D'abord et avant tout, à quoi sert Parrainage civique Montréal?
Le Parrainage civique Montréal, en fait, c'est un bureau à Montréal. Il y en a 21 à travers le Québec. Nous, on est situé sur le plateau Mont-Royal. Donc, c'est un organisme qui permet à des personnes vivant avec une déficience intellectuelle de s'épanouir dans une relation d'amitié égalitaire avec une personne bénévole. Donc, c'est du jumelage entre un citoyen bénévole et une personne avec une déficience intellectuelle.
Et vous allez offrir gratuitement des ateliers d'art et de musique. Vous avez des besoins. Quels sont-ils?
Oui, exactement. Dès début février, on va instaurer des ateliers d'art, de l'art visuel, BD, collage, des ateliers de musique, de chant, de danse. Et nous sommes activement en recherche de matériel d'art, donc tous les dons qui pourraient être financés, mais aussi des pinceaux, de la peinture, des magazines pour l'atelier de collage. On cherche aussi des tambours pour l'atelier de musique pour faire bénéficier nos membres à ces ateliers-là, puis les offrir gratuitement.
Ah oui, et vous parlez aussi de costumes, de décors, des chapeaux, des tissus, des paillettes, des accessoires.
Oui.
Quel genre d'accessoires?
Exactement, c'est parce qu'on a une troupe de théâtre aussi au Parrainage avec des personnes avec une déficience intellectuelle qui s'appelle les Super Rigolos. Donc, une fois par année, ils présentent une pièce de théâtre qu'ils ont travaillée toute l'année. Et on a intégré dans les ateliers d'art un atelier de décors et costumes. Donc, c'est en lien avec les artistes de la troupe. Donc, on cherche tout ce qui peut aider à monter des décors, construire des décors, des costumes, des chapeaux et tout ça.
Oui, et comment on peut prendre contact avec vous si on a des choses à vous donner?
Donc, vous pouvez écrire à info@parrainagemontréal.org. Sinon, vous pouvez toujours téléphoner dans le 514-843-8813.
Mm-hmm.
Le poste 4, sinon faites 0 et vous allez tomber sur quelqu'un ici.
Est-ce que vous avez toujours besoin de bénévoles?
On est toujours en recrutement de bénévoles. Il y a présentement 80 personnes qui sont sur la liste d'attente, 80 membres qui ont une déficience intellectuelle, qui sont en attente d'un parrain ou d'une marraine.
Ah, 80!
Donc, oui, 80. On a 80 jumelages qui existent depuis plusieurs années. Bon, ces jumelages-là, ils sont actifs. Il y a 250 membres au total et 80 personnes sur la liste d'attente encore. Alors, on est toujours à la recherche de bénévoles qui voudraient s'impliquer. C'est un 5 heures minimum par mois dans un engagement d'au moins un an pour être ami avec une personne qui a une déficience intellectuelle, faire une activité une fois par mois avec. Ça peut être plus aussi. Il y a toujours de la place pour de l'aide dans certains comités qu'on a, comités commandites ou quand on fait des événements, on cherche toujours des bénévoles. Alors, je vous invite à appeler et on va trouver, on va vous expliquer tous nos besoins puis je suis sûre qu'on pourra trouver une place pour vous.
Oui, et le portrait du bénévole par excellence, quel est-il pour vous?
Le bénévole, c'est une personne de cœur qui souhaite donner son temps, une personne qui éprouve des difficultés par son handicap en lui offrant un sentiment d'inclusivité, de contribuer à son épanouissement, donc d'être son ami.
Ouais.
C'est le bénévole idéal pour nous.
Une personne de cœur.
Oui.
Et Madame Pelletier, vous parliez d'ateliers d'art et de musique. Qui donne ces ateliers-là?
On a plusieurs intervenants qui ont une expérience avec ce genre de clientèle-là. Donc, le professeur, on parle de Frédéric Péloquin pour l'art visuel, on parle de Mohamed Goul pour l'atelier de musique qui a fait beaucoup de travaux et qui a même développé un programme avec les enfants autistes avec les percussions. Mm-hmm. Donc, ce sont des gens très, très impliqués et très dévoué à la cause.
Oui, alors il y a aussi les ateliers collage, costumes et décors, on en parlait tantôt, création de bandes dessinées, où vous avez besoin de crayons et de papeterie. Alors,
oui,
j'espère
qu'on
communiquera en grand nombre avec vous. Le numéro de téléphone, on le rappelle, 514-843-8813, poste 4. Et votre adresse courriel, Mme Pelletier?
Info à commercialparrainagemontréal.org. Je voulais juste mentionner aussi que toute entreprise qui voudrait être porteur du changement, je les invite à nous téléphoner. On amène nos membres, 10 de nos membres en Belgique dans un voyage de découverte. Alors voilà, on rentre dans notre campagne de financement triennale. Alors toute compagnie qui voudrait s'impliquer, je les invite à me téléphoner. M'écrire.
Un voyage qui va se réaliser en 2018?
En avril. On part du 3 au 11 avec 10 membres qui ont une déficience intellectuelle. On les amène en Belgique rencontrer d'autres organismes qui travaillent sur le même front là-bas et visiter les musées et la ville.
Beau projet exaltant.
Oui.
Alors, Christina Pelletier, directrice du développement, financement, partenariat et relations publiques de parrainage civique Montréal. Merci d'avoir été avec nous. Joyeux Noël et puis bonne année 2018.
Merci à vous aussi.
Merci.
Merci beaucoup.
Au revoir. L'Office des transports du Canada impose une amende de 25 000 $ à OC Transpo pour avoir omis d'annoncer des arrêts cruciaux sur 3 lignes d'autobus. Les faits reprochés se sont produits le 14 novembre dernier dans des autobus des lignes 4, 7 et 62. En vertu de la loi sur les transports au Canada, les transporteurs publics ont une obligation d'offrir un transport sans obstacle abusif pour les personnes, y compris les personnes ayant une déficience. Les chauffeurs n'ont pas annoncé des arrêts principaux à l'Université Carleton ou à différents endroits du centre-ville, ainsi que devant la place de la Confédération. Le transporteur public peut en appeler de cette décision au Tribunal d'appel des transports du Canada avant le 23 janvier, date à laquelle il doit verser l'amende au receveur général du Canada. Une adolescente aveugle exprime par la photo une vision du monde comme personne. Cette jeune fille de 16 ans, originaire de Bristol, dans le sud-ouest de l'Angleterre, est officiellement considérée comme aveugle. Sa vision centrale est nulle, sa vision périphérique et sa perception de la profondeur réduite. Ce que la plupart des gens discernent à 60 mètres, je ne le vois qu'à 3 mètres avec mon œil gauche et à 1 mètre avec mon œil droit, explique-t-elle au HuffPost. Mais ce handicap ne l'empêche pas de capturer de superbes images qu'elle partage sur Instagram via son compte à commercial A Blind Photographer. Je pense que les autres photographes accordent une place primordiale aux détails. Moi qui suis incapable de les distinguer, je favorise plutôt les couleurs vives et les effets de contraste. Elle prend la plupart de ses photos avec son iPhone 7 en se rendant en cours à la Bristol Cathedral Choir School ou bien en pratiquant l'aviron au sein du club de la ville, dont elle fait partie depuis près de 5 ans. Elle aime tout particulièrement immortaliser les couchers de soleil et les reflets observés dans sa ville natale qui forment à ses yeux des scènes et des compositions éclatantes. Mais c'est à New York, où elle s'est rendue en octobre, qu'elle a pris l'une de ses photos les plus mémorables. R-O-E-S-I-E, donc c'est Rosie, reconnaît que son handicap lui a valu de recevoir beaucoup plus de soutien sur certaines choses, mais elle a toujours refusé de le considérer comme un obstacle. Étant malvoyante de naissance, j'ignore totalement ce que serait ma vie avec une vision normale, ajoute-t-elle. Rafale, service de transport adapté du RTL, service des fêtes, annulation des déplacements réguliers pour la période du 24 décembre au 2 janvier, service d'un samedi, 6h30 à 1h du matin, 24, 25, 26 et 31 décembre et 1er et 2 janvier. Nous vous souhaitons un joyeux temps des fêtes. C'est un message donc du service de transport adapté du RTL. Stationnement gratuit pour les personnes handicapées et les vétérans à Sherbrooke. Les personnes handicapées ainsi que les vétérans pourront stationner gratuitement à Sherbrooke. Le projet a été adopté au conseil municipal de lundi. Ils pourront garer leur voiture dans tous les espaces munis de panonceaux numérotés aux périodes où le stationnement est permis. Pour ce faire, ils devront obtenir un permis de stationnement sous forme de vignette qui sera disponible à compter du mois de février prochain. Pour l'obtenir, les gens doivent détenir une vignette pour personnes handicapées émise par la SAAC. Quant aux vétérans, ils doivent détenir une plaque d'immatriculation pour anciens combattants émise aussi par la SAAC. Voilà, ça complète les paractualités, première édition de l'hiver 2017 et puis dernière édition de l'année 2017 déjà. Alors un grand merci à mon équipe Anne-Laure Janson à la recherche et aujourd'hui à la technique Mathieu Tessier. Merci à mes invités Tommy Bédard, directeur général de la Société de l'autisme de l'Abitibi-Témiscamingue et à Christina Pelletier, directrice du développement, financement, partenariat et relations publiques de Parrainage civique Montréal. Merci à vous d'avoir été fidèles toute l'année et je vous souhaite un très, très beau temps des fêtes. Que le meilleur arrive pour vous et que vous soyez bien entourés par ceux et celles qui vous aiment et que vous aimez, évidemment. Je vous retrouve, quant à moi, le 8 janvier et c'est François Brodeur qui sera là le mercredi 3 janvier pour vous accueillir au Paractualité. Merci encore et puis de belles fêtes, un bel hiver, à très bientôt. Ça va passer vite quand même. 8 janvier 2018, à bientôt.